enfin, hein, parce que c'est pas la peine de finir. Donc Christophe m'a demandé de partager. Et j'avais fait, j'avais partagé cela il y a quelques temps. Et c'était c'est ce qu'on appelle les sept paroles de la croix. Donc il m'a demandé de partager ça. Donc il y en a, comme il y en a une partie qui sont dans l'évangile de Jean, on va partager ça. Voilà. C'est simple. Les sept paroles de la croix. En plus c'est bien, ça fait un titre. Donc c'est les sept paroles du Seigneur sur la croix. Et on considère, ce qui n'est pas faux dans un sens, que c'est le testament spirituel du Seigneur. Hein? Voilà. Donc il les a vraiment prononcées du haut de la croix, évidemment. Et si on y regarde bien, c'est un petit peu ça le sujet, c'est que ces sept paroles, ça fait comme un exemple de vie pour chacun de nous. C'est comme si on avait un mode d'emploi de la vie de tous les jours. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans ce sens-là. Au-delà des paroles, elles ont vraiment un sens. Voilà. Ensuite, un autre point qu'il a observé, qu'il a remarqué, c'est que ces sept paroles, elles se divisent en trois parties. On a distingué les paroles prononcées par le Seigneur avant les trois heures de ténèbres, la parole prononcée par le Seigneur pendant les trois heures de ténèbres, et les paroles prononcées par le Seigneur après les trois heures de ténèbres. Vous allez voir, on va voir des différences. Les paroles prononcées avant les trois heures des ténèbres, c'est la première, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est Luc 23, 34. La deuxième, c'est « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Toujours Luc 23, 43. Et ensuite, la troisième parole, c'est « Femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère ». Et ça, c'est Jean 19, 26 et 27. Ensuite, on a une parole prononcée pendant les trois heures de ténèbres. Là, ça va être « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, c'est quand même pas anodin. Et les trois suivantes, c'est « après les trois heures de ténèbres », c'est « j'ai soif », c'est Jean 19, 28. « C'est accompli » ou « tout est accompli », Jean 19, 30. Et la septième et dernière parole, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Là, c'est Luc 23, 46. Une autre chose, avant de rentrer dans le détail, à noter dans les généralités, c'est que quand le Seigneur, sur la croix, il va dire « Père » quand il s'adresse à Dieu, avant les trois heures de ténèbres, et après les trois heures de ténèbres, mais pendant les trois heures de ténèbres, il ne va dire que « Mon Dieu ».« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça montre bien que pendant les heures de ténèbres, il y a vraiment eu séparation. Il a pris le péché sur lui et il y a eu séparation avec Dieu, son Père. Hein? Voilà. Le saint et le juste abandonné et éloigné de Dieu. Voilà. Et donc, éloigné de son Père. Et là, il va l'appeler Dieu et il ne va pas utiliser le terme Père. Voilà. Donc voilà, un petit peu les trois manières de répartir, de les catégoriser. Donc, la première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La première parole de Jésus, quand même, c'est quand même énorme. Hein? C'est Luc 23, verset 34. La première parole de Jésus sur la croix concerne quoi ? Le pardon de ses ennemis. Donc, là, on voit Jésus, au pire moment, hein, dans les douleurs les pires. Eh bien, il va prier le Père de leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Donc là, l'évangile de Luc nous montre la majesté de la paix divine réalisée dans l'humanité du Seigneur, hein, au milieu de la douleur. Et c'est la plus belle démonstration de grâce. Hein. La grâce resplendit sur ses lèvres, quelqu'un a écrit. Je trouve ça très beau. Et ça fait penser à l'apôtre Pierre quand il va dire « Lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. » Dans un autre moment, il va dire « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier, et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. » Donc, Pierre, quand il va rattacher la première parole du Seigneur, avec un petit peu les derniers appels quand il va prêcher en acte, vous savez, quand il prêche après la résurrection, à la Pentecôte, après la Pentecôte, et il va rattacher la première parole du Seigneur, parce qu'il va dire « Et maintenant, frères, je sais ce que vous avez fait, vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche des prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc on voit qu'il fait un lien, c'est assez intéressant de voir Pierre, quand il va prêcher à Israël, il va faire le lien avec ce pardon. Il va même le mettre en avant. Et souvent, on a l'habitude de dire que là, pour le coup, on le dit, mais ça prend encore plus de sens quand on dit « Dieu pardonne les temps d'ignorance ». Ben, ils étaient ignorants, tout simplement. Au-delà de peut-être les quatre juifs religieux qu'on peut imaginer, mais on va dire, de la manière générale, les gens étaient ignorants. Ils ne savaient pas que c'était Dieu, en fin de compte. Ils ne l'avaient pas saisi, évidemment. Et Paul va le dire aussi, dans Timothée, quand il va dire « Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié hein, », quand il va rappeler « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, hein, tout ce qu'il a été, j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité, mais la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Hein. » Alors là, évidemment, la première application intéressante de ça, ben, c'est nos relations en tant que frères et sœurs en Christ. Hein. On a à s'entraîner, en tout cas à vouloir le vivre, à exercer le pardon. Et puis j'ai rajouté ça, mais comme le Seigneur a fait, mais pas seulement quand on a raison. Quoi. C'est même plutôt l'inverse, logiquement. Donc ça, c'est vraiment la première parole. Je trouve qu'elle pose un truc immense, et puis c'est extrêmement concret pour notre vie à nous. Voilà. Ça nous parle que si Christ a demandé à ce que le Père leur pardonne, ben c'est la première application qu'on doit en faire, nous, dans notre vie, c'est nous pardonner les uns les autres. Bon, Jésus va le dire, l'apôtre Paul va le reprendre, évidemment, dans l'aspect éthique et de la vie les uns avec les autres. Mais là, c'est encore mieux mis en avant. Après, la seconde parole, c'est Luc toujours 23, 43. « En vérité, je te dis, ou je te le dis, ça dépend, hein, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Qu'est-ce qu'elle montre, cette parole ? Elle montre aux hommes le chemin du ciel, ni plus ni moins. Hein. Alors, c'est très, très intéressant aussi, cette parole, parce que, d'abord, c'est la réponse du Seigneur au bandit, quoi. C'est « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Au début, les deux brigands, on le voit, ils insultent le Seigneur, hein, les deux. Et puis, ce passage, on peut l'associer à l'évangélisation. Quand on évangélise, qu'est-ce qui va se passer souvent ? Les personnes vont pas nous écouter, ou critiquer Jésus, ou, hein. Ça c'est la version soft, des fois ça peut être très mal reçu quand on annonce le Seigneur. Et là, la scène change, et puis il y a deux catégories qui vont apparaître. L'un va écouter ce que Jésus dit, et l'autre va au contraire continuer, et même son cœur va s'endurcir, puisqu'il va être encore pire. En fait, un va être touché par la grâce de Dieu, et il va reconnaître sa culpabilité, et il va proclamer la justice, que eux, oui, ils endurent un jugement, hein, vous rappelez, il lui dit, ça c'est normal, mais tout en rappelant que là, il y a un homme qui est innocent, c'est le Seigneur. Hein. Et après, cet homme, une fois qu'il a fait sa part, il va s'adresser au Seigneur directement. Et il va lui dire quoi ? De se souvenir de lui. Et par la foi, c'est ça la foi. Par la foi, il demande à cet homme, en plus, lui, pour le coup, c'est une sacrée foi, parce que hein, Jésus est sur la croix. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il soit en position de force. Il est réduit à l'impuissance. Et pourtant, par la foi, il sait que le royaume de Dieu va venir. Voilà. Et il va oublier son mal, ses souffrances. Et je pense qu'il voit quelque chose. Et là, le Seigneur va lui promettre le paradis. Voilà. Le nom du paradis, j'ai lu ça, c'est un mot d'emprunt, en fait, c'est d'origine persane. Ça s'appelle, hein, c'est ça? Voilà. Ça veut dire jardin de délices. Hein. On pourrait dire c'est l'Éden, un peu céleste en fait. Hein. Voilà. C'est le paradis de Dieu. Donc, il y a eu un débat aussi sur cette parole. C'est juste pour l'anecdote, parce que suivant où est la virgule, hein, en vérité, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, ou en vérité, virgule, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, c'est aujourd'hui dans l'immédiateté. Dans le second cas, c'est un jour, oui, il y aura une vie au paradis avec moi. Je referme la parenthèse, mais après, ça dépend de la position de chacun. Quand on meurt, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, mais parce que j'ai lu un bouquin là-dessus, il y a eu un débat
Le pas
là-dessus.
intermédiaire, on
Ouais,
appelle ça.
voilà, c'est ça. Et c'est pas aussi clair que ça, hein? C'est pas.
Les dômes, soit ils dorment, soit ils sont devant le Seigneur. Enfin, est-ce
Voilà.
qu'ils dorment ou ils sont devant le Seigneur?
Voilà. Et les 24 vieillards, alors ils sont qui là? Enfin,
Oui.
voilà. Et donc, et certains, suivant où on met la ponctuation, alors c'est ridicule aussi, puisque la ponctuation n'existait pas dans le grec. Donc moi, je n'ai pas la réponse de ce côté-là. Et puis, c'est peu important, mais c'est bien quand même de vous le signaler. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, il s'est fait homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'humanité au ciel. Et là, pour le coup, il l'amène, puisque c'est ce qu'il promet à cet homme. Et là, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Eh bien, il montre aux hommes le chemin du paradis. Et c'est l'œuvre de la vie du Seigneur sur terre. C'est quoi? C'est amener à la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, dans une situation qui semblait la plus faible, eh bien, il a une conversion, entre guillemets. C'est fort, quoi. C'est fort pour nous, là aussi. Ça veut dire que, voilà notre rôle aussi, c'est d'amener des gens au Seigneur, c'est d'amener des gens grâce à l'évangélisation. Donc vous voyez, pareil, c'est pas anodin. Troisième parole, qui est aussi formidable, c'est en Jean 19, 26 et 27. On la connaît toutes, tous. Jean 19, versets 26 et 27. Il est dit, femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. Et là encore, manifestation efficace de la vie divine. Hein? Parce que là, ben, la scène, elle est pleine de grâce d'abord. Déjà, c'est. Donc près de la croix de Jésus, je vous rappelle qu'il y a, c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Jean, il y a sa mère, Marie, il y a Marie de Magdala et il y a Marie de Clopas. En fait, il y a trois Maries. Femme de, oui. Oui, tu as raison. Oui, l'autre, c'est pas la femme de Magdala, oui. Voilà, il y a trois maris, trois femmes qui ont suivi le Seigneur tout le temps de sa vie. Donc ça, c'est. Il y en avait
La
d'autres.
femme de Clopas, c'est Marthe, non?
Marie, c'est Marie, femme de
Ouais,
Clopas.
ouais, ouais.
Il y a trois maris,
C'est
en
pas celle
fait.
qu'on
Il y a
appelle
trois maris.
Marthe.
Non, non, c'est. Et après, même, il y a aussi la mère de Jacques et Jean. Enfin, il y a énormément de. Ça aussi, c'est des fois, c'est bien de se rappeler que beaucoup de gens suivent Jésus. Ils sont pas 12 et lui, quoi. Donc c'est
De toute
important.
façon, les 12, là, ils n'y étaient pas.
À part Jean. Voilà. Et là, elles sont près de la croix. Hein. Et Jésus voit sa mère et il voit Jean. Et là aussi, c'est incroyable. Son œuvre, là aussi, va reprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, on est dans l'humanité du Christ, hein, les affections humaines. Et il se rend compte, eh ben, qu'il va abandonner sa mère, quelque part, et qu'il va abandonner Jean. Alors, Jean, le disciple que Jésus aimait, déjà pour une raison au-delà j'y étais pas, mais en tout cas, c'est le plus jeune et de très loin. Hein, on pense qu'il a 16 ans, c'est ça. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc, 16 ans, c'est vraiment très très jeune, hein, imaginez.
Oh, mais toujours.
Voilà, mais au-delà de ça, tout simplement d'un point de vue humain, imaginons qu'on soit une bande. On est de 16 à 30 ans, bon, celui de 16 ans, c'est le plus fragile, quoi. Enfin, en tout cas, dans ce sens-là. Et donc là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à sa mère, femme, voilà ton fils, il lui donne un substitut, et à son disciple, voici ta mère. Et c'est extraordinaire parce que ça fait penser aussi à la parole quand Jésus, il interpelle Matthieu, il lui dit, suis-moi. Aussitôt, Matthieu se leva et le suivit. Et là, il est dit, voilà, et à ce moment-là, il est dit, le disciple l'a pris dans sa maison. Il n'y a même pas d'hésitation, il n'y a rien. C'est quand même un truc extraordinaire. Sachant aussi que Marie, elle a d'autres enfants. Ça aussi, c'est. Bon. Voilà. Troisième parole du Seigneur, troisième œuvre de sa vie. Et c'est laquelle ? C'est celle qui consiste à établir un lien entre les gens, entre les croyants. Hein ? Nous sommes frères, c'est lui qui nous a unis. Hein ? Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Donc, dans cette parole du Seigneur, dans cette troisième parole, eh ben, il y a l'amour dans l'esprit, l'amour qui est le lien de la perfection, dont l'apôtre Paul parle dans Colossiens, hein, ce lien indicible de l'amour. Et là, c'est déjà comme le début, c'est la mise en forme de la communauté, la naissance déjà de la communauté, puisqu'on va avoir des liens. Là, c'est femme, mais avec un fils, fils avec une mère. Au-delà de ça, ça nous parle de s'aimer les uns les autres. C'est une évidence, c'est une prémisse de ça en tout cas. Après, si vous avez des questions ou des commentaires, parce que... Non, pas de questions ? C'est clair ? Alors, la quatrième parole, ben celle-là, c'est pendant les heures de ténèbres. C'est quand même intéressant de savoir ça, moi, je trouve. C'est quand même pas... Il n'y a rien d'anodin dans la parole de Dieu, et c'est quand même un fondement important, quoi. Donc, mon Dieu, donc je vous rappelle, là, il n'y a plus de notion de Père. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Marc 27, 46, Marc 15, 34, c'est le cri de détresse. Pardon ?
Attends.
Ouais, excusez-moi. Marc 15, verset 34, et Matthieu 27, verset 46.
Matthieu 27.
46. Ben, c'est le cri de détresse, là, qui va résumer, qui va condenser les trois heures de ténèbres.
Mais tu nous avais dit Jean 19, 28 ?
Non, pas là. Tout à l'heure. Jean 19, 26 et 27, c'est...
Alors, attends. Là, c'est Marc.
Marc 15.
15, 34 et Matthieu 27, 46.
Ouais, absolument. Okay. Vous allez voir, il y a des, en plus, c'est assez intéressant. Il y a plein de choses qui sont dites là. Donc, on va dire, c'est la forme si, enfin, c'est pas si dans le sens conditionnel. Jésus étant Dieu, c'est la forme de la douleur absolue. Hein. Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est quand même pas, c'est pas rien. Il y a une idée qu'on retrouve dans Philippiens 2:8. Ouais. 2:8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même et se rendra obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Bon, c'est pas probant ce verset. Donc la souffrance, c'est un trait fondamental de la vie du Seigneur. Et en même temps, c'est terrible ce que je vous dis, mais c'est un caractère aussi essentiel dans la vie chrétienne, quoi. Hein ? Nous savons en effet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis tout le passage de Romains 5 sur la souffrance qui produit la patience, qui produit la persévérance, qui produit l'espérance. Épître de Jacques aussi. Et la souffrance, personne ne la cherche. Et d'ailleurs, il faudrait être fou pour la chercher. Mais elle est là. Elle est la conséquence du péché, tout simplement. Donc, au-delà de tout, quoi. Et la parole de Dieu nous rappelle toujours que aussi, elle est un pédagogue, souvent, dans notre vie. Hein ? Quelqu'un a écrit, mais ben, c'est connu, de toute manière. On a plus à avoir peur de nos victoires, de nos succès, que de nos échecs. Parce que quand on a besoin, dans l'échec, on a tellement besoin du Seigneur. Dans la victoire, parfois on peut l'oublier, malheureusement. Ça nous rappelle qu'on est tout simplement des pécheurs. Hein. Voilà, c'est tout. Au moins, ça, c'est une bonne manière de s'en rappeler. Hein. Voilà. Et là, la quatrième parole du Seigneur, elle se retrouve, parce qu'elle est fondamentale, elle est répétée dans deux évangiles à la fois. Une fois Matthieu, une fois Marc. C'est une exception unique. Hein. Chaque fois, je vous ai cité des références, il n'y en a qu'une, et là, il y en a deux. Et le Seigneur, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», en fait, il cite le commencement du psaume 22. Donc vous voyez, il cite l'Ancien Testament pour attester tout ce qui allait arriver. Hein. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le verset 1 du psaume 22. Mm-hmm. « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?»« Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, etc. » Après, bon, on part dans autre chose, mais c'est quand même intéressant de remarquer combien de fois le Seigneur cite l'Ancien Testament. Hein. Donc, et vous le remarquerez, tu as Matthieu 27, 46 devant toi. Ben vas-y, lis-le.
À la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, sama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. »
Voilà. Et dans Matthieu 27, 46, il va être dit, depuis, hein, il y eut des ténèbres, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria, donc vous voyez, on est bien à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon. Et relis-le, juste ça.
« Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Voilà. Et donc, c'est marrant, parce que la même phrase est répétée deux fois. En fait, une fois, c'est l'origine grecque, et une fois, c'est l'origine sémitique, quoi. Donc, on voit déjà que ce procédé veut augmenter et rehausser l'importance de cette phrase. Hein. Voilà. Et dans l'évangile de Matthieu, donc, il va dire « Eli, Eli, lama sabachthani ». Et dans l'évangile de Marc, je vais revenir là-dessus, et il va dire « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Voilà. Et donc, et quelques-uns, dans Matthieu, il est dit, et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient, il appelle Élie celui-ci. C'est bizarre, non, vous ne trouvez pas? Il appelle Élie. En fait, la raison de ça, c'est que dans l'évangile de Matthieu, avant la traduction en grec, de la quatrième parole, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, les mots se trouvent transcrits de l'hébreu, et le reste de la phrase est transcrit en araméen. Donc en Matthieu, c'est « Eli, Eli », c'est de l'hébreu, et « Lama sabachthani », c'est de l'araméen. Alors que dans l'évangile de Marc, la phrase sémitique est complètement en araméen. Donc ça veut nous dire, parce qu'il n'y a rien d'accidentel, vous saisissez ce que je veux dire? Ça veut dire tout simplement que à ce moment-là, hein, il est probable que le Seigneur a poussé le cri de détresse en araméen, mais qu'il a prononcé les mots « mon Dieu » en hébreu. Peut-être pour le ramener au psaume 22 de l'Ancien Testament. Et le nom grec d'Élie offre plus de ressemblance avec les mots « mon Dieu » en hébreu qu'avec les mêmes mots en araméen. Donc, il y a eu une confusion. Et ben, en fait, la raison elle est très simple. C'est que l'hébreu, à l'époque du Seigneur, c'est plus une langue religieuse seulement, mais c'est plus une langue nationale. Hein. La langue parlée, c'est l'araméen, tout simplement. Donc les gens, quand ils disent Élie, Élie, ben en fait, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'hébreu. Ils comprennent que l'araméen. C'est étrange. Mais non, c'est pas étrange. Donc Jésus, il parlait au quotidien en araméen, pas en hébreu. Voilà. Et quand il va dire cette phrase en hébreu, c'est vraiment concrètement, parce que pour le coup, l'Ancien Testament est vraiment en hébreu, pour vraiment le rattacher au psaume 22. Vous voyez ? Rien n'est accidentel. Voilà. Et donc, un grand nombre des gens qui se rendaient à la fête de Pâques, ils avaient d'ailleurs, c'est les hellénistes, hein, c'est ce qu'on appelle les hellénistes, eux, ils parlaient grec. Ils parlaient quasiment pas l'araméen et encore moins l'hébreu. Hein. Voilà. Donc, on peut en tirer quoi de ça ? Ben, tous les bienfaits, toutes les grâces, tous les privilèges dont on jouit individuellement, collectivement, eh ben, c'est la source de toute notre joie. Des fois, il faut le mettre dans cette perspective, je pense, dans nos vies. Eh ben, la source, c'est les souffrances du Seigneur. C'est les souffrances du Seigneur sur la croix. Hein? Et il ne faut jamais oublier un truc qu'on n'oublie pas forcément, mais tout l'Ancien Testament... Enfin, je ne connais pas les références, mais plusieurs fois, il est répété que « maudit celui qui sera pendu au bois ». Donc, en fait, ça veut dire que C'est Dieu qui déclare ça, maudit. Donc ça veut dire que Dieu, Jésus, il est devenu malédiction. Mais réellement, il est devenu malédiction pour nous, pour avoir la vie. Et c'est ça qui nous a sauvés. C'est que lui, il a été maudit par Dieu. C'est pas rien, c'est pas... Et c'est ça le rachat. Et c'est ça qui fait qu'on est saint et sans péché devant le Seigneur, parce que Jésus a été maudit afin de nous racheter. Moi, je trouve ça extrêmement fort. Et dans notre vie, hein, c'est très concret. Combien de fois chacun de nous, là, ce soir, on peut avoir le sentiment que le Seigneur nous a abandonnés, nous abandonne, nous, hein, quand on vit des choses terribles, des choses qu'on ne comprend pas, difficiles, eh ben, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, peut-être qu'on ne le formule pas, mais au final, c'est ce qu'on vit. Hein. On a l'impression que c'est ça, quoi. Et ça, c'est vraiment le piège parfait, c'est de nous faire croire que le Seigneur s'intéresse plus à nous, qu'il nous a oubliés. Non, des fois, il y a des situations peut-être difficiles, mais le Seigneur est là, même si on ne comprend pas tout. Voilà. Donc, c'est pareil, même phrase, une phrase qui a un vrai sens dans au-delà du texte, dans notre vie. Après, on est sorti des 3 heures de ténèbres, hein, c'est après les 3 heures de ténèbres, il y a quand même eu... Il va avoir après un tremblement de terre. Il va avoir un verset que vous avez tous vu, mais moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Il y a des morts qui ressuscitent. Ça devait être flippant, hein, quand même. Les heures de ténèbres, et puis d'un coup, on voit des gens qui étaient morts. Bon, je sais pas, ça fait un peu magique, quoi, mais c'est un peu comme quand les gens qui ont... Ouais, voilà. Ou les gens, tu sais, qui ont touché les os de Paul, là, par exemple. Ouais. Tu sais, qui sont... Bon, c'est... Là, c'est ces petits détails, des fois, qui peuvent faire tomber dans des délires un peu... Parce que c'est sûr que c'est quand même très étonnant. Bon, la cinquième parole du Seigneur, c'est dans Jean 19, 28, verset 28. Elle est simple, elle est courte. J'ai soif. Ouais. Voilà, un seul mot, j'ai soif. Elle aussi, pareil, cette phrase, c'est ça qui est intéressant, elle indique un caractère... de la vie du Seigneur et surtout de la vie chrétienne, de notre vie. Hein. Donc, après les 3 heures de ténèbres, et on peut dire les 3 heures de ténèbres, à la sortie des ténèbres, ben, c'est l'expiation, quoi. C'est ce principe-là. Et bien, encore une fois, parce que le Seigneur va accomplir l'Écriture, il n'y a pas un détail qu'il n'accomplit pas. C'est-à-dire, tout ce qui a été prophétisé, il l'accomplit. Et là, il fait référence à deux passages. Dans le psaume 22, verset 15, où il est dit « Ma langue est attachée à mon palais. » Et dans le psaume 69, verset 21, « Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » C'est incroyable. C'est incroyable. Ne pas l'attacher au Seigneur, ça, c'est même pas possible, puisque on va... Hein, il va... Voilà. On voit que le Seigneur, il attache plus qu'une importance à la parole qui a été déclarée. Alors le vinaigre, où c'est du vin aigri, c'est trempé d'eau, c'était la boisson des soldats romains, en fait. Voilà, il l'emportait partout dans leurs expéditions. Hein. Donc, et là, le paradoxe, c'est que c'est le créateur de l'eau, le créateur de la vie, quoi, des sources, de la fontaine, le créateur de monde, le seigneur de la gloire, et bien il va dire « j'ai soif ». Il est sur la croix, il dit « j'ai soif ». Et la soif, c'est un des caractères essentiels de la vie chrétienne. Hein? Le chrétien fidèle, qu'est-ce qu'il a ici-bas? Eh bien, il a soif. Il a soif de quoi? Du ciel. Il va avoir soif des âmes. Il va avoir soif de Dieu. Soif de le connaître. C'est un fondement dans nos vies d'avoir soif. Puis des fois, on n'a plus soif. On perd cette soif. Ouais, c'est bien de la retrouver. Hein? Psaume 42. Comme le cerf brame après les courants d'eau, vous le connaissez. Ainsi, mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? C'est extraordinaire. Hein, hein. Donc, Jésus, quand il prêche en Galilée, en Matthieu 5, verset 6, il va dire « Bienheureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ou il va dire, ça c'est connu, hein, c'est... à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si quelqu'un a soif, c'est paradoxal hein, d'avoir cette, sur la croix cette phrase qui semble anodine, qui culmine sur quelque chose. Puis juste quand on met en miroir le nombre de fois où Jésus va dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » C'est incroyable, quoi, je trouve. Hein. Donc si on a soif, nos frères ont soif aussi. Hein. Et il nous demande aussi de soulager la soif. Donc sa mort aussi, c'est quoi? C'est la source. C'est la source de grâce, de bénédiction. C'est le rocher qu'on a frappé pour d'où est jailli le breuvage spirituel. Parce que on est dans le où on est aujourd'hui dans le monde, on est dans le désert. C'est cette image. On est dans le désert. On a besoin de trouver de l'eau. Parce que sinon on va mourir de soif. Et lui seul nous donne cette eau qui donne la vie et qui ôte la soif. Hein. Et même ça va plus loin parce qu'en Apocalypse 21, verset 6, ce verset dit « À celui qui a soif, moi, je donnerai gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. » Ça fait fontaine de jouvence un peu. Hein. Voilà. Et il répète ça. « Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre gratuitement de l'eau de la vie, c'est toujours dans l'Apocalypse. Donc voilà, là on a un appel à la vie. Hein. Et c'est une manière aussi de marcher. On marche dans la vie en ayant soif, soif de Dieu. La sixième parole du Seigneur, pareil, très courte, Jean 19, verset 30. Voilà, tout est accompli, ou c'est accompli, ça dépend des versions. Et on va dire que toute la vie du Seigneur, le travail, la prière, ça a rempli l'existence du Seigneur. Hein, pour arriver à ce moment-là, tout est accompli. Le Seigneur disait, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est rendu de lieu en lieu, il a témoigné, il a dit qui il était jusqu'à la croix. Hein. Donc le Seigneur qui quitte la place qu'il occupait de toute éternité comme fils auprès du Père, qu'est-ce qu'il vient faire? C'était quoi? Il vient dans le monde pour révéler la gloire et l'amour du Père, et surtout pour mourir sur la croix. Et encore une fois, je le redis, il a été fait malédiction. Hein, lui, sur la croix, c'est la gloire de Dieu pour le salut des hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut dire que c'est accompli parce que lui, devenant malédiction, il nous a tous rachetés. Donc il a accompli ce que Dieu réclamait. La justice ne pouvait s'opérer autrement que par Dieu maudit à la croix. Mais en le disant, je me dis que ça a aucun sens, quoi. Qu'est-ce que ça nous dépasse, quoi. Voilà. Voilà. Donc le péché est condamné, je veux dire. Il est châtié, il est cloué à la croix, en fin de compte. Et donc, conséquence, nos péchés se trouvent expiés. Le péché du monde est ôté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein. Donc, le péché est ôté, nos ennemis sont terrassés, et pire, Éphésiens, Paul, dans Éphésiens, il nous dit, et nous sommes rendus agréables à Dieu, dans le bien-aimé, pour le temps, donc le temps, et pour l'éternité. Voilà, c'est incroyable. Et là, c'est le dernier Adam, et c'est le nouvel Adam, le deuxième. Hein, voilà. Et il va restaurer quoi? Ben, la relation qui a été perdue à cause du péché, parce que le péché ne va plus exister entre l'homme et Dieu qui va accepter cette croix, cette mort du Seigneur et sa résurrection. Donc, la gloire de Dieu, il est dit, demeure établie à la croix du Seigneur pour l'éternité. Voilà, c'est accompli, c'est fini. Et c'est terrible des fois en tant que chrétien quand on remet ça en cause dans des fois quand on parle avec des gens de douter de... Par exemple, douter de son salut à des moments, ça peut arriver à tout le monde dans la vie, ou croire qu'on peut perdre son salut, je trouve que c'est un peu... C'est pas reconnaître quand Jésus dit c'est accompli, quoi. Tout est accompli. C'est lui qui le dit. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous? C'est accompli. Voilà. Donc lui, il va restaurer ça. À la croix, le parfait, hein, l'homme, le second homme, descendu du ciel, ben, il a tout restauré. Voilà. Et donc, la sixième parole du Sauveur, du Seigneur, sa place, c'est ça que je voulais dire, c'est comme un sceau, c'est une autorité. Voilà. Si lui, il le dit, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Voilà, nous, en tant qu'hommes. Lui, voilà, il met un sceau à cette œuvre parfaite. Voilà. Elle est immortelle et il l'a achevée sur la croix. L'œuvre d'amour est terminée, le péché est ôté pour toujours devant Dieu, le péché se trouve aboli. Tous ceux qui croient au Fils entre les mains duquel le Père a remis toutes choses sont soustraits aux conséquences du péché. Je ne vous apprends rien, mais c'est important de le rappeler. La gloire de Dieu est relevée, la mort est vaincue, la bénédiction éternelle est établie, et ça illuminera un règne de paix. Nouveaux cieux, nouvelle terre, tout est accompli. Donc, ça nous rappelle que le travail dans la vie chrétienne, le travail accompli, c'est là aussi, c'est un caractère essentiel de la vie chrétienne. Hein. Jésus, c'est ses paroles, travaillez non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est de lui que le Père Dieu a scellé. Voilà. Donc si pour nous aussi tout est accompli dans un sens, hein, eh ben on voit aussi dans Actes, ben justement, après ce tout est accompli, ben c'est le boulot qui commence. Hein. Allez parmi les nations et faites des disciples. Hein. Travail immense d'annoncer l'Évangile. Hein. Et on pourrait dire que chaque fois, par la grâce de Dieu, par notre entremise, j'aime pas trop dire ça, mais on participe en tout cas, quelqu'un vient au Seigneur, ben on peut dire là, ben, tout est accompli. Voilà, on a fait ce pourquoi le Seigneur nous a mis sur vers la personne, en tout cas, déjà. Tout est accompli, la personne a accepté le Seigneur, on a fait le job, il y a un vrai travail, ça peut être l'évangélisation, mais ça peut être sous d'autres formes, évidemment. Et enfin, la dernière parole, la septième, là aussi, qui nous parle, Luc 23, verset 46. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Et alors, c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est dans Luc, et Luc, chaque fois, on dit que c'est l'évangile qui rapporte l'homme. Hein, celui qui, le fils de l'homme, vous savez, le symbole de Luc, c'est l'homme. Et là, donc on va dire, c'est l'évangile qui nous parle peut-être le mieux de l'humanité du Seigneur. Et là, il va dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Hein? Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. En fait, cette phrase, on la retrouve dans 3. Là, je ne l'ai cité que dans Luc, mais aussi dans Matthieu, elle y est. Hein? Et là, dans Marc, ce qui est intéressant, c'est le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi. Ça veut dire que donc... En criant ainsi, c'est pas anodin, c'est-à-dire que Jésus, ben, il avait soif. Hein, dans les films qu'on voit, on le voit complètement. Mais ben, là, il a crié. Donc ça veut dire qu'il s'est redressé, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais il a crié. Et l'homme, le centurion, qu'est-ce qu'il dit ? Certainement, cet homme était fils de Dieu. Voilà. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et cet homme qui entend ça, il dit certainement, cet homme était le fils de Dieu. Ça semble pas... Il y a certainement un lien. Et Luc, quand il raconte ça, la déclaration, et c'est intéressant, la déclaration dans Luc, et ça vient comme parachever l'œuvre que je vous racontais tout à l'heure, le centurion voyant ce qui était arrivé, glorifiant Dieu, disant, vous connaissez la suite ? En vérité, cet homme était juste. C'est incroyable. C'est incroyable parce que, un, c'est l'évangile qui veut magnifier l'humanité de Christ. Et comme pour encore plus, ben là, il ne va pas dire « cet homme était fils de Dieu ». Cet homme, là, c'est l'humanité, il était juste. Juste, c'est sans péché. Voilà. Comme pour vraiment enfoncer le clou, si j'ose dire. Voilà. Voilà. Le dernier cri que le Seigneur a poussé à haute voix atteste la force et l'énergie que le Seigneur avait conservée à travers ses mots. Hein. Et en même temps, ça rappelle que cette mort, ben, elle a été libre et volontaire, puisque voilà, il n'a pas subi la mort, en fin de compte. Il a relevé la tête, et c'est précisé dans chaque évangile qu'il a crié à haute voix. C'est quand même pas anodin. Et moi, j'y vois bien ce symbole-là de... voilà, personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Quoi. C'est pas pareil, quoi. Voilà. Et souvent dans les films, je reste au film, mais on a pas cette vision. On a vraiment, tu vois, une décrépitude, et voilà. Et puis là, non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit que il a crié, qu'il a élevé la voix. Jésus criant en haute voix. Luc, Jésus ayant jeté un grand cri. Matthieu, Jésus ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Donc vous voyez, c'est quand même pas anodin non plus. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est que à quelque chose près, à part le mot Père, la septième et dernière parole du Seigneur, c'est à peu près le psaume 31, verset 5, ou le psaume 30, verset 6.
Non, 31, 6.
Mais vas-y.
Je remets mon esprit en te tenant. Tu m'as libéré éternel, toi la vie véritable.
Voilà. Même là, il fait une référence à l'Ancien Testament. Donc, bon, c'est. Voilà. C'est juste pour dire que malgré des situations extrêmes, voilà. J'allais dire, c'est Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est tellement évident, quoi. Voilà. À l'heure suprême, couronnement de la vie de prière du Seigneur, quoi. Et la prière, c'est l'expression de la dépendance vis-à-vis de Dieu, la soumission à son volonté. Et en un mot, c'est quoi ? Cette obéissance, c'est pour Dieu, c'est la perfection même de l'homme. Puisque le péché, c'est la désobéissance. Le second Adam, c'est l'obéissance. Et ça, c'est la perfection humaine. Donc, on se rend compte, ben, ça on le savait, que toute sa vie, le Seigneur a manifesté sa dépendance vis-à-vis de Dieu en étant sans cesse en prière. Hein, c'est ce qu'il est dit. Hein. Donc, c'est... Voilà. C'est encore un caractère de sa vie. Et c'est un caractère qu'il nous transmet, en fin de compte. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit vivre. C'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. La prière doit tenir un rôle dans notre vie, en fin de compte. Et elle va manifester la dépendance. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, elle est pleine de fruits. Je pense, c'est cette parole, mais les unes résument les œuvres de la vie, c'est la première série, et les autres indiquent les caractères de la vie et composent la seconde série. Vous allez voir. Réunies ensemble, les deux séries constituent la science pratique, c'est-à-dire de la vie chrétienne. Regardez. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça. On manifeste quelque chose. Là, pour nous. Hein. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, la vie éternelle. Ton fils, voilà. Ça, voici ton fils et voici ta mère. Ça montre les œuvres de la vie qui jaillissent de la mort du Seigneur. Hein. Ces manifestations de la grâce. Pourquoi ? Parce qu'on a le pardon des offenses. On a l'accès du paradis, de la vie éternelle. Et on a les liens qui doivent unir les âmes. Et ça, c'est les œuvres maîtresses du christianisme. Mm-hmm. Vie éternelle, pardon des péchés, hein, et s'aimer les uns les autres. Donc, vous voyez. Ensuite, les quatre dernières. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai soif, c'est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça décrit la nature et les caractères de la vie chrétienne. L'abandon, où est notre Dieu ? Hein, on s'abandonne. La soif de lui, hein, la soif dans la relation des âmes, c'est-à-dire de lui, et la soif pour les autres. Le travail à accomplir, et surtout, la dépendance vis-à-vis de Dieu, jusqu'à notre suprême de la mort. Voilà. Et ça constitue la source des œuvres de vie. Et je trouve que ça, c'était pour le Seigneur. Mais nous, regardez, ces paroles, on va les prendre à l'envers. Hein. Pour chaque homme, les œuvres de la vie sont des fruits, et ces fruits ne peuvent se manifester sans avoir les caractères de la vie chrétienne. et regardez bien. On dépend de Dieu, on a un travail à accomplir, on a soif de lui, on s'abandonne. Et parce qu'on fait tout ça, alors on est capable de pardonner. On va au ciel et on crée des relations les uns avec les autres. C'est marrant, c'est comme c'est la vraie vie, c'est la description de la vie chrétienne parfaite, on va dire. Comme Dieu nous interpellera tout le temps, et ces paroles résument la vie en plus passionnante de la vie chrétienne, je trouve. Voilà. Et je trouve aussi un truc, c'est que la quatrième, pour moi, c'est comme le passage vis-à-vis, car c'est un doute vis-à-vis de Dieu à cause des circonstances. Voilà, ça pour chacun de nous. Des autres, de la vie, ce qui nous arrive, du diable, quand on se sent abandonné, on ne peut pas manifester ses œuvres. Mais on doit, si on revient à dépendre de lui, à avoir soif de lui, à travailler pour lui, alors de nouveau, on remanifeste les œuvres. Vous voyez, c'est comme un truc perpétuel. Voilà. Et je trouve que chaque fois que soit on est dans le passage où on doit revenir au point de départ, ou soit on a passé le quatrième et on est dans les fruits, c'est-à-dire le pardon, la vérité, voilà. Je trouve ça formidable. Voilà. C'est la pratique, la science pratique de la vie chrétienne. Voilà. C'est... Voilà. Et je ne l'ai pas retrouvé, mais l'ordre des deux séries, c'est particulier au Sauveur, au Seigneur. La seule différence, c'est que lui, il n'avait pas besoin de mérite de sa mort pour accomplir des œuvres. Ce qui n'est pas notre cas. Mais dans Actes, le discours d'Étienne, si on l'analyse, si je ne dis pas de bêtises, là, c'est plutôt l'homme, et on part du 759, je crois, à la fin. C'est à l'envers, si on regarde bien. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Attendez. Ouais. Il s'écria d'une voix forte, ne leur impute pas ce péché. Donc, on va dire que Père, pardonne-leur. Il remet son esprit, il leur pardonne, quoi. C'est pas dans le même ordre. Vous voyez ? Là, c'est toute l'humanité, mais nous, c'est ce qu'on vit, en fin de compte. Hein ? On a besoin de s'abandonner pour pouvoir pardonner. On a besoin de donner notre vie pour vivre les fruits. Jésus, il n'a pas besoin de donner sa vie pour pouvoir pardonner. Vous voyez ? C'est... Voilà. Donc nous, ça, on va le vivre... façon de parler, vous comprenez bien, hein, c'est pas un truc parfait. Mais là aussi, je trouve qu'il y a, du sens dans tout ça. Donc, douleur absolue, la soif, le travail accompli, la dépendance. Voilà, c'est ça, ces paroles. Voilà. Et les trois premières, c'est le pardon, la vie éternelle et la communion fraternelle, on va dire, si on peut dire. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Et si vous avez des questions, ou surtout des commentaires, parce que à quatre, je pense que chacun on a des opinions. Et... Non, on peut écouter les... On l'arrête ?